France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
C'est l'année internationale de la physique quantique. On poursuit notre feuilleton avec l'un de ses grands fondateurs, Paul Dirac, britannique en quête du beau mathématique. Comment est-il devenu le père de l'antimatière ? Paul Dirac voit de la beauté dans les mathématiques quand d'autres en trouvent dans la peinture ou la littérature. Dès son jeune âge, il dit être tombé amoureux des théories d'Einstein. En 1928, avec sa célèbre équation de Dirac, le physicien va alors unifier mécanique quantique et relativité restreinte. Il va ainsi prédire l'existence d'antiparticules, une prédiction récompensée par un prix Nobel en 1933. Souvent cité comme l'un des scientifiques les plus influents de l'histoire de l'Angleterre, ses travaux continuent d'alimenter la physique contemporaine. Paul Dirac, l'entrée en antimatière. Charles-Antoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence, chercheur au laboratoire de physique théorique de la matière condensée à Sorbonne Université, spécialiste de physique théorique et vous êtes ambassadeur médiation du CNRS physique pour l'année 2025. Christophe Galfard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un physicien, écrivain et l'auteur de la BD Les Explorateurs de l'Univers chez Michel Lafon en 2024 et vous êtes scientifiquement, vous êtes l'arrière-petit-fils par filiation de thèse de Paul Dirac. Merci. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Merci à celles et ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous ceux qui nous rejoignent sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencecqfd. Alors comment Paul Dirac a-t-il mis la beauté des mathématiques au centre de son œuvre scientifique? Comment a-t-il donné naissance à l'antimatière? Et quelle est l'ampleur de ses travaux? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, la parole est donnée à Paul Dirac lui-même. C'est notre archive du jour.
General relativity was considered by Einstein as his most important discovery.
La relativité générale était considérée par Einstein comme sa découverte la plus importante. Il travaillait entièrement seul sur ses nouvelles idées mathématiques et ce fut une grande victoire pour lui de pouvoir clarifier ses idées et d'introduire une nouvelle théorie de la gravitation, intégrant un type de symétrie très puissant. Cette symétrie est importante en physique uniquement là où il y a des champs gravitationnels, tandis que la symétrie antérieure, celle de la relativité restreinte, est importante dans toute la physique. Ainsi, cette symétrie supplémentaire introduite par la relativité générale, bien qu'il s'agisse d'une théorie mathématique merveilleuse, n'a pas un effet aussi grand sur la physique.
Voilà, Paul Dirac dans une interview en 1982, grand amoureux d'Einstein, enfin de ses théories, mais Charles-Antoine, pour beaucoup, Paul Dirac est plus important qu'Einstein.
Oui, on peut presque dire ça, et pour beaucoup de scientifiques, c'est le cas. C'est vraiment, on parlait de la filiation naturelle de thèse, mais c'est vrai qu'il a, repris la chaire prestigieuse de mathématiques, dont Christophe pourra peut-être parler, mais qui a été donc tenue par Newton, et puis après Dirac pendant 37 ans, avant que ce soit Hawking, justement. Mais pour beaucoup de scientifiques aujourd'hui, ses apports en physique théorique, et en particulier en physique des particules, ont été tels, en particulier pour le développement du modèle standard de la physique, notre vision moderne de la physique des particules, que oui, on peut même considérer qu'il a eu un plus gros impact en physique théorique qu'Einstein. D'ailleurs, il y avait eu un classement, je crois, en début 2000 ou fin 1999, où il y avait eu un classement des plus grands scientifiques du XXe siècle. Et évidemment, Einstein est arrivé en premier. Et Dirac, très loin derrière, il y avait pas mal de scientifiques qui avaient un peu râlé en disant, mais Dirac, par son apport aussi bien en physique qu'en mathématiques et surtout, comme vous le disiez, sa recherche de beauté mathématique, même si elle a des travers, a été un guide pour plein de physiciens théoriciens.
Christophe Galfard, votre écoute de cette archive et votre point de vue également sur l'importance, la prédominance de Paul Dirac sur Einstein.
On va rectifier ça aujourd'hui avec cette émission. Alors, est-ce qu'on est obligé de mettre une hiérarchie dedans? C'est pas nécessaire. Puis après, ça fait des bons titres, mais. Je suis pas tout à fait d'accord de les deux en fait, ces deux personnages, si on regarde Einstein qui a ouvert notre vision dans plein de domaines, notamment, comme le disait Dirac à l'instant, sur la gravitation. Ce que Dirac a fait, on va dire qu'il a un peu fait la même chose que ce qu'Einstein a pu faire pour la gravitation. Il a fait la même chose pour tout ce qui est à l'intérieur de la gravitation, pour tout ce qui peut en être la cause, pour tout ce qui est particules, pour tout ce qui est matière. Et il nous a offert une vision qui est la vision qu'on a encore aujourd'hui. Elle aurait pu être changée depuis, hein. On aurait pu aller au-delà. Non, c'est la vision de tous les scientifiques d'aujourd'hui sur ce qu'est la matière. C'est Dirac qui nous l'a offerte. Et il nous l'a offerte non pas par juste un coup de bol, ou comme ça peut être le cas, on peut avoir des découvertes extraordinaires qui sont faites un petit peu au hasard, disons, des recherches. Dirac, c'est extraordinairement profond. La raison pour laquelle il nous a donné la vision qu'on a aujourd'hui.
Et on va plonger évidemment dans la profondeur de ses travaux, mais d'abord un mot sur le personnage. Paul Adrien Maurice Dirac est né à Bristol le 8 août 1902, mort le 20 octobre 84 en Floride. Il est fils d'un professeur de français immigré de Suisse et d'une bibliothécaire née en Cornouailles. Alors Charles-Antoine, c'est un personnage qui est plutôt connu pour avoir été un disons minimaliste de la parole, qui était très très mutique. Quelle a été son enfance, si on doit commencer quelque part, c'est bien par là.
Alors en fait, y a pas mal de personnes qui sont dont ces biographes officiels qui ont pensé au syndrome d'Asperger et qui l'ont mis dans une catégorie un petit peu peut-être un peu trop vite. Alors que si on regarde son enfance et sa vie, en fait, l'influence de son père a été déterminante. Il avait un père hyper strict, hyper autoritaire, donc qui le forçait à parler français et qui l'a rendu complètement mutique. Mais c'est cette influence là qui l'a fait devenir comme ça. Après, il a bénéficié d'un coup de pouce un peu du destin, puisque quand il était adolescent, c'était la Première Guerre mondiale. Et il se trouve que tous les jeunes de plus de 18 ans, eh bien, étaient plus là. Donc ça ouvrait des portes, les professeurs étaient plus disponibles, et lui-même le reconnaissait qu'il a eu cette chance d'avoir finalement eu cette adolescence à ce moment-là, et donc il avait bénéficié de cela. Ensuite, donc, sous l'influence de son père, il a fait une école d'ingénieur électrique. Donc il a bien réussi évidemment au niveau des examens, mais il devait faire des stages. Il y a des anecdotes comme ça où une fois il a fait un stage dans une usine et il disait que c'était une menace terrible, une menace positive, je crois qu'il disait ça en sortie du stage. Donc il n'était pas très doué pour les aspects expérimentaux, mais après il avait des problèmes financiers, donc il n'a pas pu aller à Cambridge tout de suite. Il a réussi le concours d'entrée de Cambridge, il a pas pu, donc c'était en 1921. Donc il a fait une formation en maths sur 2 ans, alors que normalement ça dure 3 ans, et puis en 1923 il a retenté Cambridge, qu'il a à nouveau eu, mais là il avait l'argent et donc il a pu commencer sa thèse sous la direction de Ralph Fowler, un des grands physiciens de l'époque sur la physique quantique, qu'il a initié. Comme disait Christophe, en fait au départ Dirac était intéressé par la relativité restreinte, puis la relativité générale, mais en fait il s'est plongé dans la physique quantique pour essayer de comprendre entre autres le spin et la physique de l'électron.
Alors ce goût des mathématiques, pareil, la légende raconte qu'à 13 ans on lui a offert un livre de géométrie riemannienne qui généralise la géométrie traditionnelle d'Euclide dans des espaces courbes, ce qui est normalement enseigné en troisième cycle de mathématiques à l'université. Le jeune préadolescent dévore cet ouvrage. Il est en effet en début contrarié, comme vous dites, avec d'abord cette école d'ingénieurs. Mais révélation, en 1919, Paul Dirac voit que la théorie de la relativité d'Einstein est confirmée par l'éclipse totale du Soleil. Et c'est à ce moment-là, Christophe Galfard, hein, que Paul Dirac sait ce qu'il veut faire. Il veut faire de la physique théorique. Il tombe à ce moment amoureux à ce moment-là. C'est quand même un tout jeune personnage, 1919, où on est justement ce contexte scientifique à ce moment-là.
On est à une période dans l'histoire des idées, hein, si on doit le décrire comme ça, qui est absolument phénoménale, le début du XXe siècle, où soudain, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on dépasse Newton. On dépasse les endroits que notre intuition pouvait atteindre depuis l'origine de l'humanité, en gros. Jusqu'à à peu près ces années-là, tout ce qu'on faisait en science correspondait à notre intuition du monde. Là, on a le minuscule qui devient accessible avec la physique quantique, l'extrêmement rapide qui devient accessible avec la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, et le grand, disons, la gravitation avec la théorie d'Einstein aussi. Et du coup, on arrive dans un endroit où, expérimentalement, on fait des découvertes qui correspondent à des prédictions faites par des mathématiques. On a déjà eu ça avec Newton quelques siècles plus tôt, où, pour obéir aux théories de Newton, pour que les théories de Newton soient valables, la trajectoire des planètes, qui paraissait bizarre, devenait compréhensible si on ajoutait quelque chose qui n'avait jamais été vu. Donc on essayait de caler la réalité à nos théories, et non pas l'inverse, et non pas de faire en sorte que nos théories marchent dans la réalité. On avait tellement confiance dans ce qu'on trouvait mathématiquement qu'on s'est dit, il y a forcément de l'inconnu, et on l'a trouvé. Avec Newton, c'est comme ça qu'on a découvert Neptune, par exemple, une planète. Et là, au début du XXe siècle, les mystères et les inconnus qui s'ouvrent sont colossaux. C'est l'univers tout entier, d'un côté, c'est toutes les particules qui existent de l'autre, c'est tout ce qui est rapide dans notre univers qui finalement obéit à d'autres équations, et je suis certain que c'est à ce moment-là que le fil d'Ariane que Dirac a attrapé, c'est celui de la beauté. De la beauté mathématique qui devait faire vibrer quelque chose en lui, qui lui a dit « mais si c'est beau, c'est forcément vrai ».
En 1926, il soutient la première thèse de doctorat au titre très succinct, lui aussi, mécanique quantique. Charles-Antoine, là, à ce moment-là, il est quand même à l'époque au cœur de la révolution quantique en marche.
Oui, il y a vraiment une étape, comme disait Christophe, et comme vous disiez aussi, 1919-1920. En fait, quand il a donc en gros 18 ans à peu près, il a eu, pas une révélation, mais c'est quelque chose de très fort en lui. C'est donc sa passion pour la relativité restreinte et générale. Il prend conscience des travaux donc sur de Minkowski, donc sur la relativité restreinte, et du fait que on peut réinterpréter typiquement l'électromagnétisme sous forme de temps et d'espace mélangés de façon complexe au sens mathématique du terme. Et ça va être un peu un guide pour après construire l'équation équivalente de Schrödinger, mais qu'on va appeler après l'équation de Dirac, c'est-à-dire essayer de trouver une équation qui soit à la fois relativiste, à la fois qui traite de l'électron, donc quantique, et sous la forme d'une exploration de l'espace-temps, mais vu comme si l'espace-temps était quantique, avec des variables temps et espace qui pouvaient se mélanger avec des nombres imaginaires, des nombres complexes. Et ça va vraiment le guider vers son équation de Dirac, et après on pourrait y revenir, mais son apport à ce moment-là, donc son directeur de thèse, c'était Ralph Fowler, il a officiellement soutenu la première thèse dans le monde sur la physique quantique. Et en fait, il est arrivé, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des petits éléments de chance. D'ailleurs, Heisenberg le disait aussi, il est arrivé exactement au bon moment. Et en fait, s'il était né ne serait-ce qu'un an ou deux ans avant, peut-être que la physique quantique ne serait pas due à un collectif de chercheurs, mais simplement à Dirac.
Ce collectif de chercheurs, en tout cas, Charles-Antoine, on a en 1927 le fameux 5e congrès à Solvay, où Albert Einstein est présent, où en fait tous les pionniers de la physique quantique sont là, et lui il est là, et il a 25 ans.
Oui, après il y a dans cette physique quantique, il y a vraiment trois générations. Il y a une génération plus âgée, ça va être Einstein, Planck, etc., Niels Bohr. Il y a une génération un peu intermédiaire, c'est souvent eux qui passent à la trappe, mais c'est souvent eux qui ont fait le travail, donc Max Born, Louis de Broglie, etc. Et puis il y a la génération des tout jeunes. Et encore une fois, ils étaient géniaux, mais en même temps, ils bénéficiaient aussi d'une certaine concours de circonstances. Ils étaient là au bon endroit, au bon moment, et ils avaient eu la bonne formation, et ils étaient ouverts. On sortait de ce, comme disait Christophe, on sortait de ce 19e siècle triomphant de la physique classique, et patatras, le début du 20e siècle, la fin du 19e, début 20e, a remis en cause toutes nos certitudes sur la matière, sur la lumière, le temps, l'espace, la question du vide ou la question de notre accès au monde. Et donc on a ouvert vers l'infiniment grand du cosmos, mais aussi vers l'infiniment énergétique de l'infiniment petit. Et donc ça a été une ouverture culturelle et intellectuelle intense. Souvent, j'insiste sur le rôle, par exemple, de Marie Curie, qui est un peu passée sous silence parce que comme elle était impliquée dans la radioactivité, le nucléaire, et que c'est pas très joli, on met un peu ça sous silence, alors qu'elle a joué un rôle fondamental, et c'est pour ça qu'elle était si célèbre. C'est
qu'elle est présente, elle aussi, sur cette fameuse photo du congrès à Solvay, la seule femme.
Et qui a ouvert les esprits de l'époque. En fait, on peut voir chacun des participants sur ce fameux congrès de Solvay comme ayant ouvert l'esprit de leurs compatriotes ou de leurs collègues au travers le monde scientifique à des nouvelles réalités. Comme disait Christophe, il y a vraiment une ouverture de tout, donc une ouverture presque à des nouveaux mondes. Chaque scientifique a introduit une nouvelle façon de voir le monde, voire un nouveau monde au sens même propre, un nouveau monde mathématique, abstrait, symbolique.
C'est ça qui était génial, je trouve, à cette époque-là, exactement comme ça vient d'être dit. Pour créer un monde, comment on fait ? Pour appréhender un monde inconnu, comment on fait ? On n'a pas le choix, étant humain, que de trouver un langage qui s'y prête. Et toutes ces personnes dont Charles parlait à l'instant, toutes ces personnes ont créé leur langage. Et il se trouve qu'en parlant entre eux, les langages se sont petit à petit unifiés et chacun, avec son propre langage, a fini par comprendre le langage du voisin, de la voisine, et d'avancer comme ça pour nous donner cette construction qu'on a aujourd'hui du monde. Et je pense que sans aucun doute, Dirac était le maître là-dedans.
Alors on va voir justement comment il a inventé un langage mathématique. Il a théorisé un phénomène qui a éclairé d'un jour nouveau la physique des particules, les antiparticules. Alors comment l'antimatière a-t-elle pris naissance entre ces lignes d'équation ? Restez à l'écoute.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Charles-Antoine et Christophe Galfard, nous parlons de Paul Dirac, l'un de ceux qui a posé les bases de la physique quantique. On peut le considérer comme l'un des grands fondateurs car il a apporté de nombreux apports en physique quantique. Ce sera d'ailleurs impossible d'être exhaustif aujourd'hui dans cette émission. Alors on vient de voir qu'il arrive donc à une époque où trois nouvelles théories arrivent, le quantique, la relativité restreinte, la relativité générale. Alors voyons comment Paul Dirac s'est confronté aux formulations de Heisenberg et de Schrödinger, Charles-Antoine. On a à ce moment-là Schrödinger qui nous montre que son hypothèse et celle de Heisenberg sont équivalentes, qu'elles décrivent la même réalité physique.
Exactement, c'est ce que disait Christophe. En fait, c'est vraiment une question de langage et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, la notion du langage pour exprimer l'indicible, l'invisible. Et effectivement, Heisenberg, alors il faut pas oublier de citer Born et Jordan, parce que Heisenberg sans Born et Jordan, ça n'aurait pas plus marché, en fait. Donc ce trio qui est en 1925, dont on fête donc justement le centenaire de la première formulation de la physique quantique cette année, en 1925, ce trio a inventé une première formulation mathématique. Et souvent le grand public ou les gens n'ont pas vraiment conscience du fait que de cette diversité, de cette pluralité de façons d'exprimer une même théorie. Et c'est pourtant une réalité. Et parfois, on utilise une façon différente qui peut vraiment être très très différente pour des raisons purement pratiques. Et donc, cette première formulation mathématique de la physique quantique par Heisenberg, Born et Jordan reposait sur une formulation qu'on pourrait appeler algébrique, donc assez abstraite, à l'aide de matrices, de vecteurs, etc. Enfin, pas encore de vecteurs, plutôt de matrices. Et puis, donc, une année passe, Schrödinger, lui, amène une formulation ondulatoire sous forme d'une équation au départ relativiste, mais qu'il rejette. Donc, en fait, il avait fait le boulot, Schrödinger. En fait, il avait essayé de marier la physique quantique et la relativité, mais il tombe sur une équation, donc, qu'on appelait ensuite équation de Klein-Gordon, qui fait intervenir mathématiquement des dérivées secondes par rapport au temps. Et ça, c'était un peu gênant. Et donc, il a laissé tomber Schrödinger la partie relativité et il a obtenu son équation de Schrödinger qui a eu plein de succès. Les deux formulations étaient presque antagonistes. Vraiment, ça n'a rien à voir. L'une est discontinue, les matrices de Heisenberg, Born et Jordan. L'autre est continue. Il y en a une qui parle d'ondes, l'autre qui parle juste de ce qu'on appelle les observables, des quantas, etc. Et puis, donc, Schrödinger, le premier, a montré que les deux formulations étaient équivalentes. Mais ce qu'a fait Dirac, c'est qu'il est monté d'un cran. Il a eu une vision méta de l'ensemble des théories, c'est-à-dire des formulations, en proposant un langage, comme disait Christophe, un langage qui allait unifier ces deux théories et qui allait prendre un peu de la hauteur en termes d'espace vectoriel de Hilbert, en termes d'opérateurs, de vecteurs qui définissent l'état des systèmes. Et donc vraiment, Dirac a eu, comme Newton, comme Maxwell, comme Einstein, il a fait ce petit pas de côté, voire au-dessus, pour avoir une vision globale et sortir une formulation très générale, dont certaines particulières sont la formulation d'Heisenberg et l'autre la formulation de Schrödinger.
D'ailleurs, à propos du formalisme développé par Heisenberg, Dirac aurait dit « la nature ne peut pas être aussi compliquée » à propos de cette formule. Alors, en effet, en 28, il reprend la célèbre équation de Schrödinger, qui décrit le mouvement des particules à l'échelle quantique. Christophe Galfard, quelle est l'intuition de Dirac pour reprendre cette formulation ? Quel est le souci à ses yeux ? C'est parce qu'elle n'est pas relativiste ?
Si vous voulez, on reprend à zéro.
Allons-y.
On reprend à zéro et on rebondit sur l'interview que vous avez passée au début de l'émission. Dans cette interview, il met au-dessus de tout une chose chez Einstein, qui est ce qu'il a appelé la relativité restreinte. Alors, dans relativité restreinte, il y a surtout un mot, c'est relativité. Et ce mot relativité, dans ce cadre-là, il est assez extraordinaire. C'est quelque chose qui date de Galilée, qu'on a depuis longtemps. C'est une question qu'on pose, à savoir, si vous êtes là, si je suis là, si nous sommes là et que nous regardons le monde qui est autour de nous et qu'on y trouve des lois, est-ce que ces lois qu'on va trouver sont les mêmes si jamais on aurait trouvé les mêmes si on était ailleurs, si on était dans un autre état, si on allait vite, si on était petit, si on était grand, ailleurs. Eh ben, il y a un principe en physique qui dit qu'en gros, il n'y a pas de raison que quelqu'un voit l'univers de manière plus simple que quelqu'un d'autre. Qu'en gros, les gens devraient être équivalents dans leur vision des choses. C'est ça qu'on appelle la relativité. Dirac, je comprends que ça l'ait touché, ça. Parce que ça veut dire qu'on a un principe philosophique, quelque part, qu'on peut appliquer dans une équation. C'est-à-dire qu'une équation, on peut voir mathématiquement, si par exemple, on la regarde d'un endroit ou d'un autre, si l'équation change radicalement ou pas. Si l'équation ne change pas, si elle reste la même alors qu'on change d'endroit ou de personnage, je le fais un peu caricaturalement, mais c'est un peu l'idée, si elle ne change pas, eh ben on dit qu'elle correspond à qu'elle est dans le cadre de la relativité, qu'elle est relativiste, ça fonctionne. Les équations qu'on avait pour la physique quantique, pour l'électrodynamique, disons pour la physique quantique juste avant que Dirac n'arrive, n'étaient pas relativiste. Elle n'obéissait pas à cette symétrie-là. Et ça, ça lui faisait mal, j'imagine, à Dirac. Il disait, mais la relativité restreinte, c'est tellement beau, ça s'applique tellement partout, c'est tellement philosophiquement magnifique, potentiellement, ou mathématiquement plutôt magnifique, qu'il faut que ça s'applique à ces équations. Et c'est là qu'il a creusé à l'intérieur même des équations pour en comprendre le sens et faire ce que Charles disait, remettre le temps et l'espace à une place qui est équivalent, que le temps redevienne l'équivalent de l'espace, ce qui est dit par la relativité, et en jouant avec tout ça, et pas seulement en jouant, en y allant profondément, il s'est dit que l'équation, que ce soit celle de Schrödinger ou d'Heisenberg ou de Klein-Gordon, doit être modifiée d'une certaine manière, ou pour y accéder, il faut la modifier, et il est arrivé à une vision de la physique quantique est extrêmement mathématique, dans laquelle il y avait non plus les particules, juste celles qu'on connaît, mais d'autres qui apparaissaient. Et alors ça, c'est une notion qui arrivait a posteriori, parce que Dirac, ça ne l'intéressait au départ pas, il voulait que l'équation soit belle. Et donc s'il fallait rajouter des choses, eh ben on rajoute des choses, point. On ne va pas se prendre la tête. Ce qu'on a rajouté, ça a été interprété comme d'autres particules inconnues, qui n'avaient jamais été découvertes, qui n'avaient jamais été vues, qui n'avaient jamais même posé de problème, qu'on appelle l'antimatière.
C'est ça, c'est qu'en reformulant ces équations de Schrödinger, dans le cadre de la relativité, Charles-Antoine, on voit que ces calculs laissent apparaître des nouvelles notions.
Oui, en fait, Dirac se posait aussi une question, il était obsédé, et pas que lui, hein, tous les gens à l'époque, les physiciens étaient obsédés par le spin, une propriété alors qui n'est pas typiquement quantique, mais en tout cas sa version quantifiée, elle est quantique. Et donc, il ne comprenait pas. Et l'équation de Schrödinger, elle fait pas apparaître ce spin. Il y a Paoli, un des autres grands fondateurs de la physique quantique, qui a rajouté, comme disait Christophe, il a rajouté quelque chose dans l'équation de Schrödinger pour faire apparaître le spin. Et on est passé d'une équation de Schrödinger qui portait sur un seul ingrédient, une onde, qu'on appelle une fonction d'onde, une onde quantique, à deux ingrédients, ce qu'on appelle une double fonction d'onde ou un spinner. Ça, c'est Paoli. C'était un peu ad hoc, c'était rajouté comme ça à la main. Et ce qu'a fait Dirac, c'est qu'il s'est dit, mais je vais, comme disait Christophe, je vais essayer d'unifier la physique quantique, en tout cas pour l'électron, et la relativité, et je ne vais pas me mettre de contraintes sur le nombre d'ondes qu'il va y avoir dans mon équation. Et donc il est passé, non pas à 2, mais à 4. Et pour l'image qu'on peut retenir, c'est que avec Schrödinger, c'est comme si on voulait avancer avec quelque chose qui a des roues. Avec Schrödinger, c'est un monocycle. Avec Paoli, ça va être un vélo. Et Dirac, il a dit, en fait, la meilleure façon d'avancer, c'est avec une voiture et quatre roues. Et donc, dans son équation de Dirac, c'est ce qu'on appelle un bispinner, c'est-à-dire quatre fonctions d'onde, on pourrait dire quatre fonctions d'onde de Schrödinger. Et cette équation-là, obtenue mathématiquement, on pourrait dire basiquement, en disant, je prends de contrainte la relativité restreinte, l'électron qui doit être décrit, et je ne me mets aucune autre contrainte, et je vois ce qui sort. Et en fait, cette fameuse équation de Dirac, comme on disait au début, est devenue le socle, parce que ce qu'elle disait, comme disait Christophe, ce qu'elle disait, sans forcément que Dirac en ait conscience au début, ce qu'elle disait, c'est que rien moins qu'elle contenait la réalité d'un autre monde, c'est-à-dire la moitié de l'univers qui était passé inaperçu jusqu'à maintenant, l'antimatière. Et ça a été un guide pour toute la physique théorique du XXe siècle qui a suivi, parce que c'était la beauté de la science, ou la beauté de la mathématique de la physique, des maths, va amener des prédictions qui sont vérifiés, et donc 4 ans après, on détecte le positron avec Carl Anderson.
Alors, avant d'arriver à cette première détection, en effet, pour cette équation, on a donc deux solutions. L'une avec une charge électrique négative qui décrit un électron, et l'autre avec une charge positive. Et c'est ainsi qu'on peut prédire l'existence de l'antimatière, Christophe Galfard.
Alors, pourquoi est-ce qu'on irait chercher dans une partie de l'équation une signification à quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on n'avait jamais vu avant? Il y a une raison pour laquelle on est allé creuser dans ces deux roues supplémentaires que Charles vient d'ajouter au vélo. Une raison qui est que, certes, ça nous a fait découvrir l'antimatière, mais avant ça, ça nous a fait découvrir aussi la matière telle qu'on l'a autour de nous. C'est-à-dire que c'est pas juste un inconnu qui est apparu, c'est que soudain, on a compris l'interaction entre la lumière et la matière. En fait, on a compris l'interaction entre toute la matière. Tout point. Une interaction qu'on n'avait jamais comprise auparavant. Pourquoi les objets sont comme ils sont? Pourquoi si je lance un aimant, il va se coller à un frigo? Comment de la lumière peut apparaître quand on chauffe de la matière? Tout ça, c'est dans cette mini-équation de Schrödinger. Il y a cinq lettres à l'intérieur. Elle est vraiment minuscule. Elle explique toute la matière, toute la lumière qu'on n'a jamais vue et qu'on a vue depuis la Terre. Tout est dedans. Ça inclut toutes les particules, ça inclut tout ça. Après, il y a d'autres équations, d'autres forces qui sont arrivées, mais ça explique tout. Du coup, ça marchait tellement bien qu'on s'est dit, s'il reste un bout dans cette équation, peut-être qu'on pourrait lui donner un sens aussi à ce bout. Alors, c'est quoi ce bout? Est-ce qu'on essaye on essaie d'interpréter ce qu'on voit? On voit que l'équation qu'il avait fonctionnait pour des électrons, qui sont des particules qui ont une charge négative, et que si c'est des électrons ça, l'autre truc qui apparaît correspond, si on le croit, à une particule de charge positive. Alors, lui, il pensait que c'était peut-être un proton, pas forcément une charge, une seule particule, mais un truc qui s'appelle le proton, qui est dans le noyau des atomes, mais c'est 1800 fois plus lourd que l'électron, donc ça marchait pas. Ça, c'est d'autres scientifiques qui lui ont fait remarquer. Du coup, ils se sont dit, si ça se trouve, je vais un peu plus vite sur comment ça s'est passé, mais ils se sont dit, si ça se trouve, c'est une autre particule, une particule qu'on n'a jamais vue, qui est exactement la même chose que l'électron, en tout point, même masse, disons même taille, disons absolument tout pareil, sauf que sa charge électrique est opposée. Au lieu d'être moins, ça devient plus. Donc c'est une image miroir de l'électron. Et on a découvert depuis que ce n'est pas que l'électron qui a ça, mais absolument toutes les particules qui existent dans notre univers.
Voilà, c'est aussi avec Paul Dirac que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une particule inconnue dont l'existence était prédite théoriquement s'est avérée exister réellement avec cette prédiction, avec cette vérification expérimentale, Charles-Antoine, en 1932 avec le physicien américain Carl David Anderson qui étudie le rayonnement cosmique et qui fait cette découverte grâce à une chambre à brouillard.
Oui, alors en fait, Dirac, quand il a compris la présence dans son équation de particules qui pouvaient avoir donc toutes les propriétés opposées aux particules habituelles qu'on pouvait rencontrer, il était un peu timide, il n'osait pas trop en parler. D'ailleurs, il y avait Kapitsa, un de ses collègues, qui n'arrêtait pas de lui dire après chaque discussion, chaque conférence, il disait « Alors, elles sont où, tes particules bizarres, là ?» Et c'est vrai qu'en 1932, ce qui a sûrement joué beaucoup, évidemment, parce que ça a fait sa gloire, et c'est ce qui a fait qu'il a eu le prix Nobel en 1933, c'est quand Anderson détecte dans sa chambre à brouillard, et donc il y a une image célèbre où on voit une trace et qui a la courbure inversée de celle qu'on devrait attendre pour un électron et qui a un rayon de courbure qui fait que, ça, comme disait Christophe, ça peut pas être autre chose qu'une particule qui a la même masse que l'électron, mais la charge opposée. Et donc, ça a été une gloire intense, très puissante. Et comme Dirac n'aimait pas du tout les mondanités et le public et la publicité, etc., il voulait même refuser son prix Nobel pour ne pas être sous le feu des projecteurs. Et c'est quand on lui a dit, mais attention, Paul, si jamais tu refuses, tu seras encore plus sous le feu des projecteurs. Et c'est ça qui l'a fait accepter le prix Nobel et qu'il a eu donc avec Schrödinger en 1933.
Il a offert aussi par la suite un nouveau casse-tête pour les physiciens d'aujourd'hui, car l'antimatière aujourd'hui, en 2025, continue d'interroger très profondément les chercheurs, Christophe Galfard.
Ah oui et non. Parce que, par exemple, son existence est avérée. Ça, il n'y a pas le moindre doute depuis Anderson, mais depuis, on a fait des expériences, beaucoup d'expériences là-dessus. Dans les accélérateurs de particules, ben ça, justement, ça joue par rapport à ce que Dirac a découvert. Comment est-ce qu'on interprète son équation au final? Je crois que vous vouliez en parler un petit peu plus tard, mais vu que ça a un lien avec cette antimatière, comment est-ce qu'on interprète son équation? Comme Charles le disait tout à l'heure, sur les roues de vélo, un monocycle, etc., comment est-ce qu'on n'interprète ce sur quoi s'applique l'équation. Il y a quelque chose d'amusant avec Newton. Si on a une balle de tennis et qu'on la lance, on sait ce qu'on lance. C'est une balle de tennis. Donc, on voit où elle va, au final, en appliquant les équations de Newton. Que soit Heisenberg, Schrödinger ou Dirac, on a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, qu'on va envoyer et on regarde ce que ça devient. Mais l'interprétation, Dirac disait, moi je m'en fiche de l'interprétation, c'est pas ce qui me regarde. Mais c'est quoi ce qu'on a envoyé au départ? Un électron? Ok. Ben c'est quoi un électron? Vu que ton équation, en fait, il y avait un électron, mais il y a aussi autre chose, qui est un anti-électron. Donc en fait, c'était pas un électron. C'est ce que Charles a appelé les bispinneurs tout à l'heure. C'est quoi? Ça correspond à quoi? De fil en aiguille, Dirac est arrivé à l'idée qu'il a inventée, que en réalité, on ne s'intéresse pas tant à la particule elle-même qu'à autre chose, qui est bien plus grand. Qu'à une époque, on appelait la mère de Dirac, mère MER, et qui est devenue quelque chose d'encore différent qu'on appelle aujourd'hui un champ. Un champ, c'est quelque chose qui a une valeur dans tout l'univers tout entier, partout, tout le temps. Et on connaît des champs, par exemple le champ de température, quand vous regardez une carte de météo, il y a une température sur chaque ville. Bon, ben, ça peut être une température et ça peut être des choses plus compliquées. Et les particules de Dirac sont ces choses plus compliquées qui sont partout. Ce qu'on voit, étant donné que son équation est relativiste, qu'elle fonctionne avec Einstein, ce qu'on voit, c'est que si on donne de l'énergie à un champ, peuvent apparaître les particules, à partir de rien. On peut avoir plus de particules qu'au départ, que des particules peuvent apparaître dans notre univers. Et ça, c'est ce qui se fait, j'en arrive à la réponse à votre question, dans les accélérateurs de particules. On offre une énergie extraordinaire lors d'un choc frontal de particules. On offre une énergie extraordinaire à ce champ qui enveloppe tout et qui permet de faire apparaître des choses parmi lesquelles apparaît de l'antimatière qu'on arrive même à extraire pour fabriquer des antiparticules, des antiatomes, qu'on arrive à faire ça dans nos accélérateurs de particules. Donc en ce sens-là, c'est pas si mystérieux que ça.
Ces antiatomes dont on se demande s'ils antigravitent. En tout cas, on continue avec les travaux de Paul Dirac. À propos de son équation, il dit, paraît-il, « Mon équation était plus intelligente que moi ». On poursuit.
Yeah.
En direct sur France Culture, Malka Spiegel, antimateur. Car nous parlons du père de l'antimatière, nous parlons du physicien britannique Paul Dirac. Avec nos deux invités du jour, Charles-Antoine, maître de conférence, chercheur au laboratoire de physique théorique de la matière condensée à Sorbonne Université, spécialiste de physique théorique et ambassadeur médiation du CNRS physique pour l'année 2025. Et Christophe Galfard, physicien, écrivain et l'auteur de la BD Les Explorateurs de l'Univers. Alors on vient de voir que Paul Dirac, ce chercheur à l'imagination fertile et prolifère, a fait de ces équations apparaître, émerger l'antimatière. Alors, petite question, Charles-Antoine, beaucoup de scientifiques qualifient l'équation de Dirac comme sublime. C'est souvent l'adjectif qui vient quand on parle de ces travaux-là.
Très courte. Justement, ce dont on parlait, là, on y reviendra peut-être si on a le temps, mais sur cette notion de beauté. Quand les scientifiques parlent de beauté, ils parlent de beauté mathématique, c'est-à-dire de simplicité, de compact, il faut que ce soit très court, de grands domaines d'application et de symétrie. Et en fait, la symétrie, c'est un peu le mot d'ordre, le fil rouge qui a guidé les scientifiques, en tout cas les physiciens, au cours du XXe siècle. Et Dirac, mais pas que lui, hein, il y a Weil, il y a Wigner qui était son beau-frère, Eugène Wigner, qui le concept de symétrie, donc, comme disait Christophe, d'invariance lorsque l'on transforme nos équations. Par exemple, oui, de bouger dans l'espace, de bouger dans le temps, de tourner, de se déplacer à vitesse constante, etc. Cette invariance, si elle est respectée par les équations, on parle de symétrie. Et aujourd'hui, suite aux travaux de Dirac, mais aussi de Wigner, par exemple, on en est arrivé au point où, donc cette équation de Dirac, qui était belle, qui a une symétrie relativiste et qui est très compacte, eh bien, on en est arrivé au point où c'est la symétrie qui dicte ce qu'est une particule. Par exemple, aujourd'hui, il faut bien comprendre que la définition d'une particule élémentaire, c'est pas quelque chose de matériel. C'est une définition abstraite, mathématique, comme ce qu'on appelle une représentation irréductible d'un groupe de symétrie. C'est-à-dire que, suite aux travaux de Dirac et de Wigner, de Weil, etc., on a progressivement, on s'est dit que la seule chose tangible, eh bien, c'était ce qui était intangible. C'était les symétries. L'invisible, c'est-à-dire, c'est fort parce que les symétries, ça veut dire que ce sont des transformations qu'on ne peut pas voir. Comme si on prend un carré, qu'on le retourne, et puis après qu'on le regarde à nouveau, on peut pas détecter si on a tourné le carré. Donc c'est quelque chose qui est invisible, et c'est ça qui nous a dicté notre conduite pour décrire et définir le visible.
On continue de parler de son élégance mathématique avec le reportage du jour. Dans sa recherche d'une équation quantique et relativiste, Paul Dirac était guidé par la beauté mathématique comme critère de validité. Alors pour comprendre cette démarche de pensée, on part à la rencontre d'un physicien, et c'est avec vous Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha, oui, crayon et papier en main, Walid Mouali, enseignant-chercheur, décrit en quoi réside la beauté comme critère, qu'elle façonne géométriquement les corps ou bien la forme des équations. L'élégance, la symétrie ou la sobriété, par exemple, sont des heuristiques qui ont mené Dirac, dans sa quête du beau et du vrai, à exprimer une formule libérant des énergies négatives. Concept issu de la plus haute antiquité, le couple beauté et vérité comme guide peut s'expliquer, selon le physicien, par l'éducation universitaire reçu par Dirac, imprégné de platonisme mathématique.
Alors, l'équation que j'adore décrire en termes de symétrie, c'est les équations qui sont les équations des ondes électromagnétiques. Donc, laplacien de E moins 1 sur C2, D2E sur DT2 égale 0. Le laplacien en mathématiques, est un opérateur qui décrit une dérivée d'ordre 2. Donc, il y a une parfaite symétrie entre le temps et l'espace. On a une dérivée d'ordre 2 spatiale et une dérivée d'ordre 2 temporale. Et pour moi, ces équations-là reflètent une très très belle symétrie qui, disons, affecte le temps et l'espace de la même façon. Et en plus, le champ électrique vérifie cette équation, mais le champ magnétique aussi. Et donc, tout ça, ça décrit un phénomène qu'on appelle la propagation d'une onde électromagnétique, qui a été la source de plein d'autres découvertes au XXe siècle, notamment la physique quantique. Et puis, c'est le point de départ de ce qui va déboucher sur E égale MC2, puisque Einstein demande à ses équations, aux équations et aux équations de Maxwell, qui sont l'origine de ces équations-là, de vérifier l'invariance dans le temps et dans l'espace. Donc, pourquoi est-ce que je parle de symétrie ? Parce que déjà, la découverte de ces ondes électromagnétiques au niveau théorique par Maxwell, c'est quelque chose d'incroyable, puisqu'on est capable d'avoir des ondes sur des objets complètement virtuels qui sont des champs électriques et des champs magnétiques. Ce qu'auparavant, on n'observait pas. On a été capable de bien décrire les ondes acoustiques. Ce sont des petites couches de pression qui se déplacent dans le temps. L'équation des cordes vibrantes, où on fait vibrer une corde, etc. Donc, on est capable de faire de la musique, du son et puis des cordes. Et là, c'est complètement nouveau. On trouve une équation d'onde sur quelque chose qui est un peu virtuel, qui est champ électrique et champ magnétique. Et en plus, on les trouve qui s'expriment de la même façon.
Si on se replace dans la démarche de pensée de Dirac, il essayait, je crois, vous me corrigez, de reprendre l'équation de Schrödinger, qui était correcte pour décrire le monde quantique, mais qui n'était pas relativiste.
Exactement.
Quelle était son astuce pour arriver à une équation qui parvient ?
Eh bien, le travail de Dirac, effectivement, c'était un travail de généralisation de l'équation de Schrödinger. Donc déjà, il croyait en l'équation de Schrödinger. Et donc, l'idée de Dirac, c'est en fait, entre guillemets, de prendre la racine carrée de l'équation de Schrödinger.
Dirac, lui, c'est en trouvant des... Il a travaillé à partir de dérivées premières, à partir des variables du temps et d'espace.
Oui. Bah, en fait, c'est pour ça que c'est une forme de racine carrée. Parce que l'équation de Schrödinger, donc, elle est d'ordre 2 spatial et d'ordre 1 temporel. Et l'équation de Dirac, elle est finalement... Là, on utilise une dérivée qu'on appelle covariante. C'est ça qui est différent par rapport à ça. Comme ça doit décrire des particules relativistes, on doit se mettre dans le paradigme de la relativité. Et le paradigme de la relativité dit qu'on doit respecter le fait d'obtenir les mêmes résultats, peu importe le référentiel où on se trouve. Donc, on utilise des dérivées qu'on appelle covariantes. On est sûr qu'elles ne changent pas d'un référentiel à l'autre. Et donc, c'est pour ça que l'équation de Dirac, elle est écrite avec une dérivée covariante. Et donc, qui paraît d'ordre 1 comme ceci. Alors, ça c'est l'équation, il y a H bar ici. Donc, l'équation de Schrödinger, c'est une équation d'ordre 2 spatial et d'ordre 1 en temps. Et donc, avec cette équation, on est capable effectivement de trouver les solutions, des solutions qui sont des probabilités d'être dans telle ou telle région de l'espace pour une particule quantique. Donc effectivement, la quête de Dirac, c'est quid d'une particule qui serait relativiste. Cette équation, a priori, ne rendrait pas compte de leur comportement relativiste. Donc, l'idée de Dirac est de dire « Je vais prendre la racine carrée de cette équation, en quelque sorte, c'est symbolique ce que je dis, et donc, il fait apparaître ce qu'on appelle les bispinneurs, et ça, c'était la grande invention de Dirac. Le bispinneur est un nouvel objet mathématique, et comme son nom l'indique, en fait, il décrit le spin de l'électron. Et l'équation de Dirac, qui donc est l'équation de Schrödinger écrite pour les particules relativistes, c'est une équation qui va, en plus de vouloir décrire le comportement d'une particule quantique relativiste, révéler l'existence du spin, qui est une propriété intrinsèque d'une particule quantique. Et donc, le génie de Dirac a été d'avoir pu expliquer, grâce à son équation, en plus du comportement relativiste, il a révélé intrinsèquement la propriété de spin. Et cette équation, comme je garde l'état d'esprit de racine carrée de l'équation de Schrödinger, une racine carrée, ça a toujours une solution positive et une solution négative. Et donc c'est pour ça que l'équation de Dirac a deux solutions possibles. Une solution qu'on va dire positive, qui décrirait un électron, et une solution négative, qui décrirait ce qu'on a appelé après un positron, donc un électron chargé positivement. Et Dirac, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé les deux solutions. Et en physique, traditionnellement, lorsqu'on résout une équation, ensuite on admet qu'il va y avoir des solutions physiques et des solutions non physiques. L'outil mathématique est indépendant de l'outil physique. L'analyse du physicien fait qu'on interprète les mathématiques toujours par rapport au monde physique. Est-ce que ça existe dans le monde physique, ce que je suis en train de trouver ? Si la réponse est oui, j'accepte. Si la réponse est non, je ne peux pas accepter. C'est le filtre du physicien, en quelque sorte.
Oui, mais pour Dirac, c'est pas qu'il se moquait de l'expérience, mais en tout cas, c'était
voilà.
pas...
critère principal, la réfutabilité.
C'était pas son critère principal. Et c'est en ça que c'est presque incroyable. Vraiment, je sais pas. Il a eu beaucoup de culot. Il a accepté les deux solutions. Et au nom de cette sacro-sainte symétrie et de cette recherche du vrai et du beau en même temps.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur votre appli préférée, bien sûr, l'appli Radio France. La Paul Dirac, intimement convaincu que la nature possède en son cœur une structure mathématique. Christophe Galfard, vous souhaitiez rebondir sur la symétrie, justement.
Oui, cette beauté, cette symétrie qui est là, qui est cachée dans les choses et qu'on essaye d'imposer aux équations. Là, on l'a très bien entendu et je voudrais montrer, juste dire une chose pour montrer à quel point c'est puissant, cette idée de symétrie. Parce que on peut avoir des équations, on les force à être symétriques. C'est pas forcément le cas dans la nature. On les force à être symétriques. On se dit, comme on disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de raison qu'une certaine vision soit prépondérante sur une autre, donc on met une symétrie globale, ça doit être partout. Or, c'est pas ce qu'on voit. Du coup, on se dit quoi? Eh ben, on se dit que ces symétries qui existaient, eh ben, elles sont brisées. Elles sont plus là. Elles ont été là, dans le passé, au tout début de notre univers, par exemple, et elles n'existent plus. Et on peut voir dans l'équation la conséquence mathématique de cette brisure de symétrie. Parce que dès qu'on la brise, c'est-à-dire qu'on choisit un axe, par exemple, ou un point de vue, ou quelque chose, eh ben, l'équation n'est plus symétrique, du coup, et il y a des termes qui apparaissent derrière. Eh ben, ces termes-là, on les voit dans la nature. Pas toujours, mais parfois. Notamment, l'un d'entre eux, que vous connaissez, dont on a tous entendu parler, c'est un terme qui donne aux choses une masse. C'est ce qu'on appelle le boson de Higgs. C'est une particule, disons quelque chose, qui, à cause d'une brisure de symétrie, va donner à la masse de votre corps, de la Terre, une certaine masse. Donc il y a une puissance dans la symétrie et dans sa brisure.
On évoque la puissance de la beauté mathématique, Charles-Antoine, mais c'est aussi quelque chose que vous auriez aimé nuancer.
Alors comme Christophe, moi, et je l'enseigne à Jussieu, j'ai un cours de master sur les symétries et les groupes de symétries en physique, et c'est passionnant, bien sûr. C'est très beau et c'est presque hypnotisant. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que ça nous a permis au XXe siècle, comme disait Christophe, de pouvoir prédire une quantité astronomique de particules, en gros à la suite de Dirac, mais aussi de Wigner et d'autres, hein, on a pu prédire, par exemple, les quarks, plein de particules, ce qu'on appelle les bosons vecteurs, le fameux boson de Higgs, et à chaque fois, c'est prédit 15 ou 20 ans, ou presque 60 ans pour certaines, en avance, et c'est vérifié. Et donc, on peut peut-être tomber dans l'illusion que ça marchera tout le temps. Et alors, moi, mon point de vue personnel, c'est que c'est tellement beau que j'ai envie d'adhérer à l'idée de Dirac. Mais je suis aussi intéressé, par exemple, ce qu'a fait Sabine Sonnenfelder. Là, elle sort un livre aux éditions Les Belles Lettres qui s'appelle Physique existentielle. Et Sabine Sonnenfelder, elle est connue pour avoir écrit il y a quelques années Lost in Math, justement, pour critiquer cette, pas une dérive, mais peut-être une sorte d'aveuglement de se dire, puisque ça a marché au XXe siècle, ça va forcément marcher tout le temps. Et elle vient questionner un peu en poil à gratter en disant, est-ce qu'on n'est pas en train de faire fausse route en ne faisant confiance qu'à la beauté mathématique, puisque depuis donc une vingtaine, trentaine d'années, on se rend compte que typiquement, par rapport à la supersymétrie, la théorie des supercordes, même le multivers, on tombe sur des choses qui soit ne sont pas vérifiées dans les accélérateurs de particules, soit sont invérifiables. Et donc là, on tombe dans la philosophie, d'ailleurs le bouquin de Sabine Sonnenfelder est entre la philosophie et la physique, mais on tombe sur le critère de falsifiabilité de Popper qui nous dit, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de sorte de la philomathe qui s'éloigne des réalités expérimentales? Donc il y a une sorte de scission qui crée des tensions au sein de la communauté scientifique entre théoriciens et expérimentateurs.
Ah ouais, tout ça qui préconise de revenir à des choses testables. En tout cas, pour revenir à notre Paul Dirac, qui lui n'a pas fait fausse route, on a parlé de son équation, mais autre heure importante, les statistiques de Fermi-Dirac. Ça aussi, c'est quelque chose de très important en physique, Charles-Antoine.
Alors oui, bien sûr, ça c'était en 1926, donc il faut bien imaginer qu'il était encore il était encore en thèse, ou il sortait sa thèse, et il a soutenu en juin 1926. Mais donc il a créé donc conjointement et indépendamment de Fermi, hein, Enrico Fermi l'italien, une statistique de donc qu'on appelait après Fermi-Dirac, même si Dirac était très humble en fait, et il disait c'est la statistique de Fermi. C'est juste simplement suite au principe d'exclusion de Pauli qui nous dit que typiquement deux fermions, donc deux électrons, par exemple, ne peuvent jamais être dans le même état quantique. Eh bien, il s'est dit, Dirac comme Fermi, ils se sont dit, mais ça veut dire que si on considère un énorme paquet d'électrons, typiquement ce qu'on a dans des métaux conducteurs, eh bien, il va y avoir une conséquence. Et c'est exactement ce que disait Christophe, cette symétrie, donc on appelle ça aussi l'indiscernabilité de ces électrons, s'ils doivent respecter ce principe d'exclusion de Pauli, ils doivent respecter une sorte de symétrie presque philosophique du principe de Pauli. Ça doit se voir dans les solutions des équations qu'on avait à l'époque. Et donc, on a obtenu une statistique, c'est-à-dire une façon de se comporter collectivement, qui a permis d'expliquer un nombre considérable de propriétés des métaux.
Cette statistique Fermi-Dirac, c'est pour comprendre les solides. Ça décrit le comportement des fermions, les composants de la matière, pour comprendre comment se déplace le courant dans les conducteurs. Et ça, on peut imaginer assez facilement, quand on regarde notre monde technologique autour de nous, Christophe Galfard, que l'héritage de Paul Dirac est énorme.
Ah ben oui, c'est un petit peu ce qu'on disait au début de l'émission, c'est que non seulement il nous a découvert que le monde était fait de deux fois plus de particules qu'on l'imaginait, mais il nous a aussi éclairé sur les particules dont nous nous sommes faits, les particules de matière. Et en gros, dans ce que Charles vient de dire et dans ce que vous avez décrit, on peut séparer l'ensemble des particules, appelons-les comme ça pour l'instant, de notre univers en deux catégories. Pas matière antimatière, la matière qu'on connaît là, celle qui est là autour de nous. On peut faire deux groupes de particules. Il y a celles que nous connaissons, les électrons, etc., qui sont là, et puis il y a celles qui portent des forces, celles qui font que l'aimant va être attaché à un frigo. Il y a une force qui a lieu, et ben cette force elle est portée par quelque chose. Pour le frigo en l'occurrence, pour les aimants, c'est de la lumière. Mais il y en a d'autres. Pour d'autres forces. Et du coup, on peut séparer ces deux catégories de particules en deux. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les fermions, ce sont les particules qui obéissent à la statistique de Fermi-Dirac, qui dit en gros que si on a une boîte, on peut pas en mettre un nombre infini n'importe comment dedans. Au bout d'un moment, elle refuse de laisser la place aux autres. Ça, c'est pour les fermions, Fermi-Dirac. Et de l'autre côté, il y a les particules qui correspondent aux forces. C'est celles qui portent les forces. Et là, si on a une boîte, on peut en mettre une infinité. C'est pas grave. Ça peut, je le dis caricaturalement, mais en gros, c'est ça. Il n'y a pas le principe d'exclusion de Pauli dont parlait Charles à l'instant. On peut les mettre à l'intérieur. Et donc, Fermi et Dirac ont déterminé comment se comportaient dans des grands groupes de particules qui sont la matière dont on est fait, d'électrons, etc. Lorsqu'on les met ensemble, c'est grâce à sa vision statistique qu'on sait comment les grands groupes de particules se comportent.
Charles-Antoine, on arrive vers la fin de cette discussion, mais on se rend bien compte que les travaux de Dirac, ça donne cette vision très moderne de la physique quantique et de toute la physique des particules contemporaines.
Ah bien sûr, on en parlait hors antenne, par exemple, c'est vrai que cette notion de matière-antimatière est donc une chose dont on n'a pas parlé, mais de l'annihilation, si vous mettez la matière et l'antimatière, quand elles se rencontrent, elles s'annihilent, elles libèrent de l'énergie qui se transforme sous forme de photons, ou comme disait Christophe, d'autres types de bosons. Et c'est très fort parce que, typiquement, une expérience extrêmement simple, vous prenez un photon de très haute énergie, donc un représentant de l'électromagnétisme, de la force électromagnétique, l'une des quatre forces connues, il peut se transformer spontanément en une paire de quarks-antiquarks, c'est-à-dire qui relève de l'autre, d'une autre interaction qui s'appelle l'interaction forte. La théorie correspondante, c'est la chromodynamique quantique. Ou alors sous forme d'une paire W plus W moins, qui fait référence à l'interaction faible, la troisième sur les quatre des interactions, la dernière étant la gravité. Et donc juste avec ça, c'est-à-dire matière-antimatière, qui vient directement mathématiquement de l'équation de Dirac, on peut faire le lien entre trois des quatre interactions qui finalement s'est formalisé au cours du 20e siècle, sous la forme de ce fameux modèle standard, sorte de Graal, alors c'est un peu une usine à gaz pour certains aspects, mais qui est assez bluffant, mathématiquement parlant.
Grâce à ces symétries,
complètement.
Mais merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Christophe Galfard, votre BD Les Explorateurs de l'Univers est adaptée en podcast sur Radio France. Je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à podcaster tout ça. Dans quelques secondes, on écoute Alexandra Delbaum, mais un petit mot pour vous annoncer que l'UNOC 3, la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, va bientôt démarrer. Pour l'occasion, le festival Sentiment Océanique se tiendra en parallèle, un festival qui science, art, savoir scientifique, récit sensible, c'est demain, jusqu'à dimanche, du 5 au 8 juin. J'aurai la joie de participer à ce festival. On vous vient de vous publier le programme. Et tout de suite, c'est la chronique avec science.
Comment comment la disparition des coraux influence le cycle mondial du carbone. Selon la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, plus de 80% des récifs sont maintenant exposés au blanchissement, c'est-à-dire qu'ils risquent d'expulser les algues avec lesquelles ils vivent en symbiose. Sans ces algues, ils perdent leur couleur et si cette séparation dure trop longtemps, les coraux en meurent. En cause notamment les canicules marines, mais ce n'est pas la seule menace qui pèse sur eux. La pollution, les hydrocarbures, pesticides, herbicides ou encore cyanure perturbent aussi leur reproduction et l'acidification des océans joue également un rôle clé. Il devient plus difficile pour les coraux de former leur squelette de calcium et c'est assez contre-intuitif, mais leur déclin limite la quantité de CO2 libérée naturellement dans l'océan. Lester Kwiatkowski est chercheur CNRS au laboratoire L'Océan de l'Institut Pierre-Simon Laplace.
En fait, c'est la croissance de coraux qui produisent le CO2. Quand cette croissance diminue, on a moins de CO2 produit. Et quand on a vraiment une dissolution nette, on a l'inverse. On a vraiment un puits de CO2 dans l'océan. Et ça veut dire que l'océan peut stocker un peu plus de carbone atmosphérique. Et la disparition de récifs coralliens est identifiée comme un potentiel point de bascule, repense au changement climatique, avec le réchauffement et l'acidification des océans. La calcification de récifs coralliens diminue au point que leur dissolution nette est envisagée même dans des scénarios des émissions modérées. Pourtant, l'impact de ces phénomènes sur le cycle global de carbone reste à intégrer parce que ces écosystèmes ne sont pas représentés dans les modèles climatiques actuels.
Le changement climatique tue les coraux qui libèrent moins de CO2, ce qui laisse la possibilité à l'océan d'aspirer davantage de nos émissions atmosphériques. Sachant qu'il séquestre déjà 30% du CO2 émis par les activités anthropiques, soit plus de 10 gigatonnes chaque année, combien l'océan peut-il capter de CO2 supplémentaire grâce ou à cause de la disparition des récifs coralliens? C'est ce qu'a voulu estimer cette nouvelle étude parue dans PNAS et dont ce chercheur est le premier auteur. L'enjeu est ici de créer une projection. Il a fallu combiner les dernières données sur la sensibilité des coraux au changement climatique pour estimer comment la baisse de la calcification modifie la chimie de l'eau de mer, puis coupler cela avec des modèles océaniques selon les différents scénarios d'émissions à venir. Résultat, avec le déclin corallien, l'absorption du carbone par l'océan pourrait significativement augmenter et donc réduire la quantité de CO2 atmosphérique.
La réduction future de la calcification pourrait renforcer le puits de carbone océanique jusqu'à 1,25 gigatonnes de CO2 par an d'ici 2050. Cela pourrait entraîner une augmentation de 5% de l'absorption cumulée de CO2 par l'océan au cours du XXe siècle par rapport aux estimations actuelles. C'est plus qu'à imaginer, en fait. Nous, on a regardé pas mal de processus, les autres écosystèmes, dans l'océan, on n'a pas vu quelque chose à cette magnitude avant. L'impact, c'est assez impressionnant. Même si cette étude montre que la dégradation de récifs peut avoir certains effets bénéfiques sur le climat, il ne faut pas oublier que cela a un coût énorme en termes de biodiversité, de protection côtière et de pêche.
Évidemment, on ne peut pas se réjouir de cette capacité de l'océan à séquestrer davantage le carbone que nous émettons, car les rôles des récifs sont nombreux. C'est la base de tous les écosystèmes océaniques. Ils abritent un quart de la biodiversité marine, protègent les côtes des vagues et de l'érosion, réduisent les dommages en cas de tempête et fournissent évidemment de la nourriture. On estime que près de 850 millions de personnes dans le monde dépendent des récifs pour leur alimentation. La suite de ces travaux, c'est de réduire les incertitudes. Ce n'est ici qu'une première estimation de cette rétroaction climatique. Les chiffres méritent d'être ajustés pour finalement être intégrés aux modélisations et au budget carbone, soit le quota d'émissions qui permettrait de contenir le réchauffement climatique.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne ou Angers, Alexandre Morales, Loïc Dutoit, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Élise Leu. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.